RFI 9h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal avec Martin Guèze.
Et bonne journée ou bonne nuit, Julien Coquelroem, et à demain. Nous débuterons ce journal à Jérusalem, en Israël, pour le 7e échange entre otages israéliens et détenus palestiniens. Cérémonie en cours dans la bande de Gaza, à Rafah, au sud. Cérémonie à suivre à Nouseirat, dans le centre. En France, ouverture ce matin du 61e salon de l'agriculture. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui. Le Premier ministre marocain, Aziz Aranouche, aussi le Maroc, invité d'honneur de cette édition. Au Sénégal, exercice de questions-réponses à l'Assemblée nationale pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Il a beaucoup été question du dernier rapport de la Cour des comptes. Enfin, on terminera la tête dans les étoiles, dans la Lune. Même reportage à Turin, où est construite la future station spatiale que les Occidentaux veulent envoyer autour de la Lune. 7e échange entre otages israéliens et détenus palestiniens ce matin. Le dernier, dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Un cessez-le-feu toujours fragile et encore menacé cette semaine après l'émoi et le malaise provoqué par la restitution des corps de la famille Bibas à l'État hébreu. On retrouve en direct de Jérusalem notre correspondant Michel Paul. Michel, 6 otages encore vivants doivent être libérés ce matin dans la bande de Gaza. En échange de 602 détenus palestiniens, des échanges en cours, le Hamas qui vient d'exhiber 2 otages sur un podium à Rafah.
Une libération d'otages qui se déroule en 2 temps et en 2 lieux différents de la bande de Gaza. La première partie est en cours à Rafah. 2 otages sont libérés. Tal Shoham, binational israélo-autrichien, 40 ans, qui avait été enlevé avec sa femme et leurs enfants le 7 octobre au kibbutz de Be'eri. Et aussi Avera Mengistu, d'origine éthiopienne. Il souffre de problèmes psychiques. Il est retenu à Gaza depuis plus de 10 ans, il s'était rendu de son plein gré dans l'enclave palestinienne. Alors c'est la même mise en scène que lors des précédents échanges. Nous sommes la force extrême, peut-on lire sur le podium qui a été dressé. La Croix-Rouge a inspecté les otages sous les huées de la foule. Et plus tard, 4 autres otages seront libérés à Nouseirat. Cette fois, c'est dans le centre de la bande de Gaza. Et ensuite en Cisjordanie, ce sera la seconde partie de cet échange. 602 prisonniers palestiniens vont eux aussi être remis en liberté.
Michel Paul en direct de Jérusalem sur RFI. Après la polémique, la famille de l'otage Shiri Bibas a bien confirmé la mort de cette mère de famille après la restitution de sa dépouille par le Hamas. L'actualité en France, à présent, est l'ouverture ce samedi du 61e Salon de l'Agriculture. Le président français Emmanuel Macron attendu ce matin, alors que plus de 600 000 visiteurs devraient arpenter les allées de la Porte de Versailles durant les 9 prochains jours. Des visiteurs qui ne pourront pas passer à côté des stands du Maroc. Pour la première fois, un pays étranger est à l'honneur et le Premier ministre marocain, Aziz Aranouche, doit d'ailleurs se joindre à Emmanuel Macron pour sa visite ce samedi dans un contexte de réchauffement diplomatique et de tension avec les agriculteurs français qui ont en ligne de mire la tomate marocaine, Claire Fage.
Le Maroc, pays ami à l'honneur, c'était le choix des organisateurs du salon, facilité par le rapprochement diplomatique opéré depuis l'an dernier entre Paris et Rabat. La visite conjointe du président Macron et du Premier ministre marocain Aziz Aranouche, longtemps ministre de l'Agriculture et artisan du plan Maroc Vert, passera immanquablement par l'énorme stand du Maroc où seront vantés l'argan, l'olive, les dattes et le safran du pays maghrébin. Mais c'est la tomate marocaine qui sera dans toutes les têtes. L'an dernier, les agriculteurs français en ont déversé des millions sur les routes et les parkings des supermarchés, dénonçant une concurrence déloyale, des insecticides interdits en Europe et des coûts de main-d'œuvre très faibles, alors que ce fruit marocain entre sans droit de douane hors saison en Europe. Il réclame la renégociation de l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne, avec le soutien de la présidence du groupe d'amitié France-Maroc, député RN, au risque de porter préjudice aux exportations françaises de céréales et aux investissements français dans l'agriculture marocaine. Pour tenter de résoudre cette crise, la ministre française de l'Agriculture a relancé le comité franco-marocain de la tomate.
Explication signée Claire Fage, le salon de l'agriculture qui souffre donc ce matin à Paris et qui se prolongera jusqu'au 2 mars prochain. L'Allemagne, à J-1 des élections fédérales, 60 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler les 630 sièges du Bundestag. Et les différents candidats à la chancellerie battaient encore la campagne ce vendredi si la CDU est en tête des sondages et que le parti d'extrême droite AfD fait une percée retentissante. Le SPD est lui à la traîne, le parti social-démocrate qui pointe en 3e position. Le sortant Olaf Scholz qui est mal embarqué face à Friedrich Merz, bien parti pour devenir le nouveau chancelier allemand. Des législatives pour lesquelles RFI se mobilise avec nos correspondants et envoyés spéciaux. Et la rédaction numérique aussi est sur le pont. Article sur le duel à distance entre Friedrich Merz et Olaf Scholz a retrouvé en une de notre site internet www.rfi.fr. RFI 9h05 à Paris, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les combats se poursuivent dans les deux kivus et pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné directement le Rwanda pour son soutien au M23. Résolution adoptée à l'unanimité qui réclame aussi le retrait du M23 de Goma et de Bukavu. Et puis le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui appelle lui à un cessez-le-feu immédiat lors d'un appel téléphonique avec le président kényan William Ruto. L'actualité africaine, c'est aussi ce matin le Sénégal et le Premier ministre Ousmane Sonko qui se prêtent pour la première fois au petit jeu des questions-réponses. Pendant 2h30, les députés ont pu interroger le chef du gouvernement. Au cœur des préoccupations, le rapport de la Cour des comptes, publié la semaine passée, qui pointe la mauvaise gestion des finances publiques sous le régime de l'ex-président Macky Sall. RFI Dakar, Gwendal Lavina.
11 questions posées, 8 par la majorité et 3 par l'opposition. Le Premier ministre Ousmane Sonko, dès le début de la séance, appelle, je cite, à un sursaut des Sénégalais face à un rapport particulièrement catastrophique et inquiétant. Dans la foulée, le député Abdou Karim Sall, seul orateur du groupe Takoualou, membre de l'ancienne majorité de Macky Sall, monte au créneau.
Personne, je dis bien personne, ne croit à la crédibilité et au sérieux de ce rapport. En tout cas, pas nos partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi tous ont fini de rejeter ce rapport qui, hélas, a eu l'effet d'un pétard mouillé.
Réplique cinglante du Premier ministre, longuement applaudi à de multiples reprises.
Il ne faut pas dire des choses qui peuvent être contredites facilement. Le FMI sera là, la Banque mondiale sera là la semaine prochaine. Le rapport est crédible et crédibilisé par tout le monde. N'eût été votre mandat de député ou votre immunité, vous auriez pu être convoqué pour ça. L'APR et tous ceux qui sont avec, vous devez être menacés. On vous a laissé trop de liberté.
Ousmane Sonko a par ailleurs indiqué que de nombreux autres audits d'institutions et agences gouvernementales étaient toujours attendus. Nous avons des choix difficiles à faire. C'est un exercice de vérité que nous avons engagé avec le peuple, a conclu le Premier ministre. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Aux États-Unis, Donald Trump poursuit ses purges au sein du Pentagone. Six hauts responsables des forces armées américaines vont être remplacés, dont le chef d'état-major, le militaire le plus haut gradé du pays, le général Charles Brown, sera remplacé par Dan Kane, un pilote qualifié et un expert en sécurité nationale, selon le président américain. Donald Trump attendu par ailleurs aujourd'hui à la tribune de la CPAC, la convention des partisans conservateurs qui se tient près de Washington. Allez, on finit dans l'espace. 50 ans après avoir marché sur la Lune, l'humanité compte bien y retourner. La Chine veut planter son drapeau d'ici 2030. Les Américains et leurs partenaires européens et japonais sont eux un peu plus pressés avec leur programme Artemis. Ils construisent actuellement une station spatiale qui servira d'avant-poste aux astronautes autour de la Lune. Reportage à Turin en Italie dans l'une des usines de fabrication de cette future station spatiale. Reportage signé Justine Fontaine.
Pour l'instant, les modules où vont séjourner les astronautes autour de la Lune ressemblent à de grands cylindres en aluminium, 3 mètres de diamètre chacun. Ils sont construits dans cette usine de la banlieue de Turin par l'entreprise franco-italienne Thales Alenia Space. Dernier serrage de boulon avant le départ pour les États-Unis le mois prochain.
Ils sont en train de sceller le sas d'entrée.
Anna Maria Pieras de Thales Alenia Space.
C'est une activité très complexe. Il faut être extrêmement précis pour garantir qu'il n'y ait pas de fuite d'air.
En tout, l'entreprise a décroché pour plus de 800 millions d'euros de contrats pour produire la majeure partie du squelette de la station qui sera bientôt assemblée dans l'espace, un peu comme un Lego.
Nous prévoyons le premier lancement en 2027.
John Olensen de la NASA dirige pour l'agence spatiale américaine le programme Gateway, du nom de cette future station spatiale, un avant-poste pour les astronautes vers la Lune et même au-delà.
L'idée est de trouver comment on peut fonctionner dans l'espace lointain afin de poursuivre l'exploration jusqu'à Mars ou plus loin.
Mais le projet a pris du retard, les dates de lancement sont régulièrement repoussées. Alors Pékin va-t-elle doubler les Occidentaux? Pas de commentaire du représentant de la NASA. Justine Fontaine, Turin, RFI.
Et on termine par du football. Les Françaises l'ont emporté dans le choc du soir face à la Norvège en Ligue des Nations. À Toulouse, face à la Ballon d'Or et star norvégienne, Ada Hegerberg, les coéquipières de Grace Gaillero, se sont imposées 1-0 sur un but de Marie-Antoinette Katoto. Et puis à suivre ce samedi, du rugby notamment, et la troisième journée du tournoi des Six Nations. Le Pays de Galles, bon dernier, qui accueille tout à l'heure le leader irlandais, tandis que l'Angleterre recevra l'Écosse. Et puis demain, l'Italie affrontera le 15 de France. Enfin, en basket, la France se qualifie pour l'Euro, 5e victoire en 5 matchs en qualification. Succès sur le fil, 83 à 80.